Donc aujourd'hui, je suis avec Mélissa qui est une très jeune investisseuse, je ne sais pas si on peut dire ça, investisseuse en immobilier. Donc Mélissa, est-ce que tu peux te présenter?
Alors, salut Cédric. Alors, ben voilà, je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans. Ben, je suis infirmière et voilà.
Sachant que pendant... Donc tu as acheté de l'immobilier, tu avais 25 ans quand tu as acheté.
Exactement,
Ok.
donc un an.
Et pourquoi tu as décidé d'investir? Comment ça t'a pris? Est-ce que tu connaissais des gens qui l'ont fait?
Alors, premièrement déjà, donc j'étais en Guadeloupe jusqu'à il y a 2 ans. Je suis arrivée en métropole donc en 2009. Et en arrivant en métropole, c'est vrai que j'étais un peu nostalgique déjà et je venais de quitter la Guadeloupe.
Tu fais le blues.
Voilà, exactement. Et puis je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas racheter un appartement en Guadeloupe, comme ça quand j'irai en vacances, je pourrais avoir mon logement, enfin une sorte de résidence secondaire. Et puis en fait, l'idée est venue comme ça. Et petit à petit, enfin, l'idée a fait son chemin. En 6 mois, j'ai vraiment pris ma décision. Et un an après, j'étais propriétaire.
D'accord.
Voilà. Et c'est vrai que enfin, mon père fait déjà la location. Mon père aussi a acheté et fait de la location. Donc c'est vrai que j'étais un peu conditionnée.
D'accord. Et pour lui, ça marche assez bien.
Pour mon père ou pour mon frère?
Bah, pour les deux.
Pour mon père, ça marche bien. Un peu moins bien parce que lui, il se trouve dans une région de la Guadeloupe qui est un peu plus éloignée.
Sainte-Rose, non?
Voilà, exactement. Donc ça fonctionne un peu moins bien, mais ça fonctionne quand même. Et mon frère est en location classique, donc il a un locataire en continu depuis déjà 2 ans au moins, je pense.
D'accord. Ok. Bah ça, c'est un point commun qu'il y a avec tous les autres investisseurs, c'est qu'ils connaissent tous quelqu'un ou plusieurs personnes qui a bien investi et donc ils peuvent parler à des gens qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent et après ils peuvent reproduire en fait ce qui a marché chez les gens. Ça, c'est un point commun que tous les investisseurs à succès ont. Enfin, j'ai remarqué ça. Donc c'est pour ça, enfin, si on connaît personne, c'est vraiment important d'aller vers les gens qui ont déjà investi et d'échanger avec eux. Enfin, toi, ce que j'aime bien chez toi dans ta démarche, c'est que tu es seule, tu as été seule à acheter. Donc, une jeune Guadeloupéenne infirmière, tu as quand même des revenus corrects, hein, puisque tu es infirmière, mais tu n'as pas non plus des revenus de directeur commercial, ou tu vois ce que je veux dire. Donc, tu étais
Exactement.
seule, en plus, tu avais la distance 6 000 km, 8 h 30 d'avion qui sépare Paris à la Guadeloupe. Et tu as réussi à défendre ton projet devant les banques et tu as réussi à obtenir ton crédit immobilier. Enfin, j'ai vu sur le. Enfin, tu disais que tu avais négocié avec les banques, tu avais bien fait attention au TEG, taux effectif global. Tu avais bien fait attention, bien remarqué que deux TEG n'étaient pas identiques, il fallait faire attention parce que des fois il y avait les prêteurs de données qui étaient inclus dedans ou pas. Donc. Enfin, j'ai bien aimé ta démarche. Où est-ce que tu as appris tout ça à propos du financement?
Alors, en fait, donc, quand j'ai décidé d'investir, je connaissais rien du tout aux investissements, à l'immobilier, je ne savais rien du tout. Donc, premièrement, comme tu disais, donc, j'ai commencé à interroger mon père, mon frère, on a beaucoup discuté. Et puis après, en fait, je me suis renseignée par moi-même sur Internet. Je suis très souvent sur Internet, donc pour moi, c'est facile, je vais sur les sites, je cherche et tout. J'ai acheté pas mal de magazines, j'ai été au salon, c'est vrai que j'étais beaucoup impliquée. Et enfin, après, les résultats étaient là en 2 ou 3 mois. C'est vrai que je connaissais déjà pas mal de choses et j'ai pu défendre mon projet, j'ai pu discuter avec les banquiers. Et puis voilà, donc c'est ce qui a fait que je tenais quand même à rajouter. Bon, c'est vrai que mon salaire n'est pas énorme, mais en tant qu'infirmière, c'est vrai que l'avantage que j'ai, c'est que je peux travailler à côté facilement. Et ça, c'est vrai que les banques le prennent en compte. Et quand j'ai investi, j'avais un loyer aussi qui n'était pas très élevé. Donc, tout ça fait que j'ai pas eu trop de difficultés à avoir mon crédit.
Ouais, mais là, il y avait quand même une difficulté de taille, c'est que tu voulais financer un bien qui se trouve en Guadeloupe, sachant que
Ah oui.
tu as cherché un financement en métropole. Donc ça, c'est pas évident.
Effectivement, oui, j'avais oublié déjà j'avais déjà oublié
Donc
ça.
je
Et
pense
c'est
que ça
vrai que.
compense largement le fait que tu avais un loyer faible à l'époque.
Exactement. Et c'est vrai que je suis tombée sur pas mal de banques, en fait, qui refusaient de prêter de l'argent pour les investissements en Guadeloupe. Donc, c'est vrai que c'était pas facile, mais heureusement, j'ai trouvé des banques qui me suivaient quand même.
Parce que moi j'avais voulu financer, faire un investissement en Guadeloupe et j'avais été voir un courtier justement directement pour me faciliter la vie et lui m'a répondu que il finançait pas ces pays-là. Donc j'ai un peu mal pris parce que bon, c'est pas non plus l'Irak quoi, c'est la Guadeloupe, ça reste la France, même si c'est les DOM, ça reste la France. Donc il a vu que j'étais vexé et il m'a dit mais c'est pareil pour la Corse. on finance pas ces pays-là. Mais pour moi, ça reste la France. Donc, et puis, enfin, il a dit n'importe quoi, puisque finalement, j'ai trouvé un financement à côté pour la Guadeloupe, toi aussi. Donc, c'est tout à fait faisable. Il faut juste qu'il se bouge davantage, qu'il donne plus de travail, en fait. Et peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas voulu le faire. Mais donc, c'est plus difficile, mais c'est faisable. Encore une fois, avec les banques, tout est négociable. Et
Exactement.
tu l'as bien
C'est vrai
montré.
qu'il l'a peut-être dit d'une manière péjorative, mais en fait, c'est vrai qu'en discutant avec certains banquiers, il me disait qu'en Guadeloupe, c'était plus difficile de saisir les biens en cas de non-paiement. Et après, je pense aussi que le marché immobilier en Guadeloupe, ils connaissent moins ce marché, donc ils sont un peu plus réticents à prêter de l'argent. Et puis, il y a aussi en Guadeloupe, c'est vrai qu'il s'est réputé pour avoir pas mal de grèves. Il y a une grève aussi en 2009, si je ne me trompe pas. Il y avait une grosse grève. Et donc, en fait, qui a un petit peu tué l'économie de la Guadeloupe, et je pense que ça aussi, ça a joué beaucoup.
D'accord. En même temps, ils mentent parce qu'ils disent que c'est la même chose en Corse. Et en Corse, il n'y a peut-être pas de grève. Enfin, je connais pas trop, je sais pas. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a des grèves en Guadeloupe. Je suis en train de faire construire une maison là-bas. Et il y avait la grève des transporteurs. Donc, il n'y avait pas de béton. Et pour couler une dalle, c'est une dalle de béton. Les fondations, c'est pas très évident. Mais finalement, on a récupéré le béton et on a pu couler la dalle. Donc, c'est. Enfin, dans l'immobilier, il y a toujours des bas et des hauts, et voilà, faut toujours positiver, et il y a toujours moyen de s'en sortir. Faut persévérer, et à la fin, ça paye. Donc, toi, ton. Pardon?
Non, j'ai dit effectivement, ça ne doit pas être un frein, en fait. Voilà,
Voilà,
ça nous a
au
obligés
contraire.
d'investir. Exactement.
Donc, après, enfin, c'est des petites histoires qui nous font rire après quand on en parle, quoi. Donc, ton appartement en question, il se trouve au Gosier, c'est ça? Donc, le Gosier,
Exactement.
c'est une commune assez importante en Guadeloupe, proche de la mer, c'est assez touristique, il y a pas mal d'économies là-bas. Enfin, vas-y, enfin, parle-nous-en un petit peu.
Oui, alors le Gosier, c'est une commune qui est très touristique. Et petite anecdote, en fait, je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'habitais à Sainte-Rose avec mes parents. C'est vrai que quand on allait sur le Gosier, ça nous faisait toujours un peu rêver parce que, à part les plages, il y avait des boîtes de nuit, des restaurants, c'était toujours très animé. Et c'est vrai qu'en général, quand on dit en Guadeloupe qu'on habite au Gosier, bon, on est un peu catalogué entre guillemets de quelqu'un de bien placé, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc c'est vrai que c'est une commune qui est très touristique, qui est bien placée, qui est à côté de Pointe-à-Pitre, donc la capitale, et puis à côté de Jarry, qui est aussi un poumon économique aussi important de la Guadeloupe, et à côté des plages, restaurants. Donc pour moi, c'était le lieu idéal pour investir.
D'accord.
Et donc voilà. Et en fait, en regardant bien, finalement, j'ai trouvé un bien intéressant qui n'était pas trop cher, parce qu'il faut dire quand même si c'est bien placé, les appartements ne sont pas forcément chers. Voilà.
Et pourquoi?
Pourquoi? Il suffit de bien chercher, c'est vrai qu'il y en a qui sont très chers, mais c'est comme un peu partout, il suffit de bien chercher, trouver des offres intéressantes et à partir de là, c'est.
Parce que là, l'appartement que tu as acheté, c'est un studio, donc 20 mètres carrés plus 10 mètres carrés de terrasse. Donc on peut y avoir 30 mètres carrés en tout. Parce que bon, la terrasse en Guadeloupe, on y vit quoi. C'est pas comme une terrasse en métropole. Et tu l'as eu donc 30 mètres carrés à 66 000 euros, frais d'agence inclus.
Voilà, c'est ça. Sachant qu'en fait, il est de ces 30 mètres carrés qui se trouvent au rez-de-chaussée. Donc ça aussi, c'était un choix. Parce que au rez-de-chaussée, bon, c'est déjà. Il y a une ouverture, donc se trouver, c'est déjà différent de se trouver que se trouver au premier étage. Il y a une ouverture, donc les gens peuvent faire un barbecue, se reposer l'après-midi. Enfin voilà, je trouve que ça agrandit un peu l'espace. Donc c'était déjà un choix de le prendre au rez-de-chaussée.
D'accord. Et donc frais de notaire, tu en as eu pour 4 800 euros. Frais d'hypothèque, 680 euros. Mais en fait, tu n'as pas pris une hypothèque ni un crédit de logement. Tu as pris un PDP, prêteur de deniers, c'est ça?
Voilà, en fait, j'avais hésité avec cautions. Il y avait la crédit logement avec laquelle je voulais signer, mais en fait, il faut savoir que comme j'étais jeune investisseur, je n'aurais pas eu, du moins, les frais en fait, de remboursement auraient été diminués. Et avec le prélèvement prêteur de deniers, en fait, ce n'était pas le cas. Donc, voilà.
Parce qu'avec le crédit logement, on récupère 70%.
Voilà,
Mais
exactement, c'est
c'est pas garanti. On peut récupérer 70%, ça arrive dans la plupart des cas, mais des fois, on récupère rien quand on revend le bien.
Voilà, exactement. Et donc moi, comme j'étais jeune investisseur, donc je bénéficiais d'une offre moins de 25 ans, moins de 26 ans. Et moi, c'était que de 20%. Donc à partir de là, je me suis dit que c'est plus intéressant. Et je signe finalement avec le PPD qui était 300 euros moins cher. Voilà.
Ok. Donc, enfin, c'est juste pour rappeler aux personnes qui écoutent. Donc, quand on prend un prêt immobilier, il faut mettre un crédit, enfin une assurance sur le crédit. Et donc, il y a plusieurs moyens. Donc, c'est souvent l'hypothèque qui est le système historique, on va dire, qui est le plus cher. Parce qu'il faut payer des frais de notaire et on récupère rien quand on revend la maison, quand on lève l'hypothèque. Au contraire, on paye de l'argent. Ensuite, il y a le crédit logement, donc qui lui est moins cher que l'hypothèque. C'est quelque chose qui a été créé par les banques. Et on récupère 70% du montant lors du solde, lorsqu'on solde le crédit, pas lorsqu'on revend. Et donc le prêt à taux donné aussi, qui est un petit peu moins cher que l'hypothèque. C'est juste pour rappeler ça. Et donc tu as pris un crédit sur 15 ans.
Voilà, j'ai pris un crédit sur 15 ans parce que en fait je voulais rembourser plus vite et je voulais avant mes 40 ans avoir déjà un logement remboursé qui est à moi et avec lequel je pourrais avoir des revenus locatifs qui iront directement dans ma poche. Voilà.
Et donc c'est un financement un petit peu mixte. Au début, tu payes 585, tu rembourses 585 euros par mois pendant combien d'années?
Pendant 4 ans et après je passe à 450 euros par mois. Alors ça aussi c'était un choix parce que j'ai fait deux crédits. Un crédit immobilier donc de 60 000 et mon crédit des 6 000 euros pour les frais d'agence. Et j'ai pas voulu en fait lisser mon crédit parce que ça aussi en fait ça portait des frais supplémentaires. Du coup je me suis dit pendant les 4 ans bon, je pourrais payer 590 et après comme ça mon crédit sera diminué. Ça ne me posait pas de problème.
Ok. Et tu n'as pas préféré prendre sur 20 ans et diminuer tes mensualités afin d'être plus à l'aise et avoir du cash flow, davantage de cash flow et.
Alors au début, c'est vrai que comme je ne savais pas trop, je me suis dit non, je veux 15 ans. L'agence immobilière m'avait conseillé de faire autrement, mais bon, moi je voulais faire à ma tête. Et maintenant, c'est vrai qu'un an après, je me rends compte que c'est entre guillemets une erreur, qu'au prochain investissement, je prendrai sur plus longtemps, parce que comme tu dis, en fait, j'aurai plus de cash flow. Pour l'instant, je tiens comme ça, mais j'aurais été plus à l'aise sur 20 ans et 25 ans. Peut-être pas 25 ans pour 66 000 quand même, mais sur 20 ans, en tout cas, oui.
Pourquoi il t'avait conseillé quoi l'agence?
En fait, elle m'avait conseillé de prendre un crédit sur plus longtemps, comme tu le dis, pour que justement mes loyers remboursent complètement mon crédit et génèrent un cash flow.
Parce qu'on a en fait une grosse erreur aussi, on a tendance à vouloir prendre un crédit le plus court possible et rembourser le plus vite. Mais enfin, c'est une erreur puisque finalement, quand on allonge le crédit, certes on paye plus d'intérêt, mais c'est le locataire qui paye le crédit finalement. Et nous on respire davantage chaque mois et ça nous permet de réinvestir derrière, d'être plus à l'aise. Enfin, j'ai remarqué aussi que les personnes qui réussissent vraiment bien financièrement regardent pas, enfin, n'essayent pas de se désendetter. Au contraire, c'est des personnes qui ont souvent beaucoup de dettes, mais c'est des bonnes dettes. Donc c'est beaucoup d'immobilier, même sur 20-25 ans. Alors que par contre, ceux qui sont de la classe moyenne, qui luttent financièrement, eux, ils ont zéro crédit. Pour eux, le crédit c'est mal et ils en prennent zéro. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre un bon crédit et un mauvais crédit. Donc enfin, moi je sais que tous mes investissements immobiliers, je prends au moins 20 ans et si je peux avoir davantage, je prends davantage afin d'améliorer le cash flow.
Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Et je m'en suis rendu compte. Bon, après, on apprend de ses erreurs aussi. Donc, voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Et si je peux le conseiller, ben, je le conseille. C'est comme tu dis, prendre sur plus longtemps possible.
Et donc, tu as acheté l'appartement 66 000 euros, donc frais d'agence inclus, et il était déjà meublé.
Il était déjà meublé, donc j'ai pas eu de dépenses à faire. Donc, voilà, pourquoi aussi j'ai eu le coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai eu à acheter? J'ai eu à acheter après un réfrigérateur et une machine à laver et rafraîchir la peinture. En gros, c'est ça, donc même pas 1 000 euros de dépenses par
D'accord.
la suite.
Mais d'ailleurs, on n'a pas discuté. Comment tu l'as trouvé ce bien? Parce que, enfin, est-ce que ça fait 66 000 euros, il y a 30 mètres carrés, ça fait 2 300 euros le mètre carré. Est-ce que est-ce que j'ai bien, ça fait 2 200 euros le mètre carré. Est-ce que c'est la moyenne en Guadeloupe ou est-ce que c'est en dessous du marché? Est-ce que c'est plus cher?
Alors, je t'avoue que moi, je calcule jamais au mètre carré. Je sais simplement que par rapport à la situation du bien, par rapport à pas mal de choses, à la valeur locative, pour moi, il me semblait que c'était une bonne affaire parce qu'à l'époque, je ne calculais pas en mètre carré, c'était plutôt un peu intuitif. Je sais que dans la résidence où j'ai investi, pour un studio du même type, en général, c'est 75 000, 80 000 euros.
D'accord.
Voilà. Mais sinon, après au mètre carré, je ne sais pas trop, je ne sais pas ces calculs-là.
Ok. T'as pas essayé de le faire réévaluer parce que là, ça fait quasiment un an que t'as signé, à quelques semaines près. T'as pas essayé de le faire évaluer pour voir si éventuellement il a pris de la valeur ou si.
Non, j'ai pas essayé, mais bah, tu me donnes une idée justement, pourquoi pas. Ne serait-ce que par curiosité. visiter,
Ouais.
comme ça.
66 000 euros, ok. Et au niveau des locations, comment tu t'y prends, sachant que bah, tu es quand même en Guadeloupe, donc enfin, tu es quand même en France, en métropole, l'appartement est en Guadeloupe, donc c'est quelqu'un qui gère pour toi?
Voilà, donc ça aussi, bon là c'était un petit problème, par contre ça m'a freiné un petit peu au départ, heureusement que j'ai eu mon père en fait qui m'a beaucoup aidée, qui me soutient encore beaucoup aujourd'hui, parce que au départ c'était la location saisonnière que je voulais faire, donc j'ai commencé par la location saisonnière et puis je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué. C'est vrai que mon père gère très bien, mais il habite pas à côté, donc à chaque fois c'est quand même 20 minutes de trajet pour accueillir le locataire et récupérer les clés. C'est les locataires qui appellent pour, je sais pas, le réfrigérateur pour que je vois bien. C'est quand même pas mal d'investissement de sa part. Donc après, je me suis dit finalement, je me mettrai en location semi-longue durée. C'est ce que j'ai fait. Donc à partir de octobre 2010, j'ai mis en location sur 8 mois. Et voilà, mon locataire vient de partir actuellement. Et là, je reprends la location saisonnière. Donc si vous voulez, en moyenne, ça me fait 600 euros par mois de location.
D'accord, 600 euros par mois, tu as un crédit de 585 euros pendant 4 ans et après il passe à 450. Et si tu avais pris sur 20 ans, tu aurais peut-être eu 400 euros de crédit. Donc ça aurait été encore plus intéressant. Ce qui est déjà pas mal. Donc pour trouver tes locataires, tout se passe sur Internet en fait.
Je fais tout sur Internet, donc j'utilise ben, le Bon Coin, ce que tout le monde connaît, qui fonctionne super bien, qui est gratuit, sauf si je veux mettre des options, mais sinon qui peut être gratuit, même si je mets les options qui restent quand même très avantageux financièrement. Je mets aussi sur deux autres sites de location et avec ça, j'ai des demandes régulièrement pour mon studio. Alors c'est vrai que comme il est bien situé, j'ai par exemple des médecins des internes qui viennent que 6 mois en Guadeloupe, ou bien j'ai eu aussi une demande d'un maître de conférence pour l'université de Crouillol, qui se trouve aussi à côté de l'université. J'ai des gens qui viennent en vacances, j'ai des Guadeloupéens qui viennent en métropole, qui viennent aussi juste 2 ou 3 semaines. Donc c'est très varié, c'est ce qui fait qu'en fait j'ai quasiment 100%
Taux
qui est
d'occupation.
locataire. Voilà, exactement.
Ok, wow. Pas mal. Donc ça marche plutôt bien. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui font du saisonnier en Guadeloupe ou ailleurs?
Directement, à part mon père, non, je connais pas. Je
Ok.
connais pas. Voilà,
Et si ça marche si bien, enfin, quand est-ce que tu renouvelles l'opération? Qu'est-ce que t'as pas envie de recommencer?
Bah bien sûr, si j'avais pu recommencer, j'aurais recommencé cette année. Mais bon, c'était un peu difficile parce qu'entre-temps, j'ai eu des dépenses aussi à côté. Donc voilà. Et j'ai aussi fait une erreur aussi que je ne ferai plus la prochaine fois, c'est que j'aurais dû demander, en fait, au moins demander ne serait-ce qu'un financement à 110%, comme ça, mes frais de notaire aussi auraient été inclus. Comme ça, moi aussi, j'aurais été plus à l'aise. Donc en combinant le crédit à 110% plus le crédit sur 20 ans, je pense que j'aurais pu réinvestir déjà cette année. Mais je pense qu'en 2012, là, je ferai tout pour renouveler l'opération.
Parce que là, tu as mis un apport pour les frais notaires et après, tu as un petit peu été prise à la gorge financièrement, quoi, les mois qui ont suivi.
Voilà, c'est ça.
Ça m'est déjà arrivé aussi. Et c'est une erreur que je pense qu'on fait souvent, que beaucoup de personnes font. On tombe sur vraiment la bonne affaire. Et on veut à tout prix l'avoir, donc on se précipite un petit peu, même si ça reste une très bonne affaire sur le papier. Par contre, on se met un petit peu dans le rouge financièrement, on tape un petit peu dans le fonds de sécurité. Et, enfin, moi je sais que je l'ai encore fait, j'ai déjà fait quoi. Et c'est pas une superbe situation en fait.
Non, c'est pas une situation du tout. Alors en même temps, c'est que moi quand j'ai investi, j'avais un loyer de 150 euros. Mon loyer maintenant il est 4 fois plus élevé. Et donc entre-temps, je peux déménager. Donc il y avait tout ça en même temps. Donc voilà, c'est fait. Je suis très contente d'avoir fait aujourd'hui. J'ai pas trop pensé. Sur le coup, je pensais pas au passé, pas au futur. Voilà, mais je pense que l'année prochaine, ça devrait aller beaucoup mieux. Et voilà, ça sera.
Ok, donc dans un an tu te relances toujours en saisonnier ou en fixe?
Je sais pas encore. Je sais pas si j'achète en Guadeloupe, si j'achète en métropole, en province. Mais ce que je sais, c'est que ça sera un investissement qui sera pas trop élevé parce que je pourrais pas non plus. Comme j'investirais seule encore une fois, donc je pourrais pas avoir un crédit trop élevé. Mais je sais pas encore où exactement et pourquoi. Je réfléchis toujours. Je cherche.
Ok, bah c'est pas mal tout ça. Bah, sachant que moi je vais bientôt faire la location saisonnière en Guadeloupe, je te demanderai des conseils.
Bah, il n'y a pas de souci.
Même si moi ce sera plus des maisons, donc ce sera pas le même public que toi. Toi c'est plus des couples.
Voilà, des couples avec des jeunes enfants ou des personnes célibataires.
Ouais.
Donc voilà. je peux te conseiller pourquoi pas.
Est-ce que c'est pas trop frustrant? Toi, tu es à Paris en décembre, novembre, décembre, janvier, février, il fait super froid, il fait 0 degré, et les gens t'appellent, ils t'envoient des mails et ils te disent: ouais, bonjour, je voudrais louer ton appartement où il fait 30 degrés, où il fait beau. Et pendant que tu restes là, est-ce que c'est pas frustrant des fois de dire: ah, le mec va là-bas et moi je reste à Paris dans le froid?
C'est pas trop frustrant parce que j'y vais quand même assez souvent en Guadeloupe. J'y vais pas tous les mois non plus, mais bon, j'y vais quand même. J'essaie d'y aller tous les ans. Et là, ça fait à peu près tous les 6 mois que j'y vais. C'est pas trop frustrant. Là, actuellement, le plus frustrant pour moi, c'est de pas pouvoir gérer mon bien en direct et de toujours devoir passer par mon père pour les locataires, pour plein de petites choses que je voudrais faire moi-même. C'est surtout ça qui est frustrant.
Ok. Et tu m'avais dit, au niveau des locataires, est-ce que tu as eu des déconvenues, enfin des personnes qui t'appellent le soir parce que tu as des toilettes bouchées ou des choses comme ça? Je crois que tu as eu un problème avec une locataire dernièrement. C'est la première fois que ça t'est arrivé.
Ah oui, alors j'ai eu un problème, mais j'ai pas eu ce problème-là directement parce que c'est pas moi en fait qui récupérais les clés. C'est vrai que mon père en fait, quand il a voulu en fait déjà récupérer les clés, donc déjà pas de nouvelles, donc elle appelait pas. Donc c'était déjà difficile. Ensuite, quand il a fini par récupérer les clés, ben, quand il a ouvert, c'était un peu la catastrophe. Hein, c'était un peu salle de bain à nettoyer, enfin, faire un seul lieu. Et puis, enfin, voilà, et un drap qui a disparu, des draps qui étaient abîmés. Donc, voilà. Mais c'était la première qui faisait ça. J'espère que ça se reproduira pas trop souvent, mais ça fait partie aussi du jeu. Hein.
Et ça s'est
C'est
fini comment?
ça s'est fini comment? Bah, finalement, bah, très bien pour elle. Bah, finalement, elle est revenue quand même faire le ménage. Mon père a terminé, mais elle a pas oublié de. Elle a récupéré sa caution à 100%.
Ah, vous lui avez rendu sa caution. Vous avez été gentil.
Ben, vous, c'est mon père. Moi, si j'avais été sur place, j'aurais peut-être fait autrement. Voilà, c'est ce qui est frustrant aussi. C'est que c'est pas moi qui prends la décision, c'est pas moi qui parle avec les locataires. Donc
D'accord.
voilà.
Et depuis, il a été reloué derrière.
Il a été reloué juste un week-end, parce que je fais aussi à la nuit. Juste un week-end. Et là, il sera reloué à partir de demain pour 3 semaines. Et
Semaines.
là, voilà, à partir de demain, il est complet jusqu'au 12 septembre.
Sachant que là, il faut dire qu'on est le 10 juin
Le 10 juin.
et il est complet jusqu'au 12 septembre.
Jusqu'au 12 septembre. Et après le 12 septembre, je ne le loue pas volontairement parce que je pense retourner en Guadeloupe pour m'occuper un peu de mon studio et puis le voir aussi vite parce que depuis que je l'ai acheté, j'ai jamais vu vraiment vite, j'ai jamais profité.
D'accord.
Voilà.
Et c'est quoi les meilleures périodes en Guadeloupe? Parce que l'avantage quand même par rapport à d'autres régions, c'est que bah, tu peux louer, enfin il fait beau tout le temps, quoi. À part en septembre où c'est la période des cyclones. C'est quoi vraiment les creux, les périodes creuses aux Antilles?
Alors d'après ce que j'ai remarqué, les périodes creuses, alors c'est à partir du mois de mai, mai-juin, il n'y a pas beaucoup de demandes. D'ailleurs les billets d'avion sont très bas. Ça commence après à devenir creux à partir de septembre-octobre. Septembre-octobre, je dirais que c'est les 2 périodes creuses. Sinon ça marche pas mal en décembre-janvier, période de carnaval, donc février-mars, et les grandes vacances juillet-août.
D'accord. Ok. Ok. Et ça, tu le sais, tu l'as trouvé comment? Enfin, c'est parce que tu as vécu là-bas ou tu l'as étudié? Parce que enfin, ce serait intéressant pour les gens qui seraient intéressés justement par les saisonniers, pour qu'ils puissent savoir en fait quelle période marche le mieux. Comment tu as fait pour t'enseigner là-dessus?
Ben, je le savais déjà un peu parce que je vivais là-bas. Et puis aussi, comme je me renseigne aussi, comme j'y vais à peu près, j'y vais assez souvent en Guadeloupe, donc je vois aussi au niveau des billets d'avion, quand les billets sont pas chers, c'est que c'est une période creuse. Et puis ça a été confirmé aussi par mes demandes de location. Je vois la différence, quoi. J'ai constaté la différence en un an, c'était assez flagrant.
Mais en contrepartie, si les billets sont pas chers, ça devrait faire venir les gens davantage. Alors que si les billets sont chers, tu devrais avoir moins de demandes puisque les billets sont chers, non? Enfin, je sais pas, ça me paraît étrange.
Normalement, mais c'est vrai que juillet-août, quand même, les gens, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui aiment quand même partir en juillet-août, même si les prix sont plus chers. Donc, bah, il y aura peut-être plus de demandes quand même. Carnaval, même si c'est cher, les gens, ils veulent quand même y aller parce qu'ils veulent aller voir le carnaval en Guadeloupe. Et le mois de juin, bon, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. C'est intéressant, mais voilà, c'est une période creuse.
D'accord. Donc en gros, il y a 4 mois de période creuse et 8 mois très actifs, quoi. Très,
Ouais, c'est ça.
très, 8 très bons mois.
Je dirais ça comme ça. Mais de toute façon, là, tu vois, j'ai loué à 100% quasiment. Donc, moi, je vois qu'au niveau des demandes, mais pas au niveau de location, quoi. Donc.
Et comment tu gères au niveau du paiement? Enfin, c'est quoi? C'est par chèque? C'est par virement?
Pour le paiement, une fois que le locataire donc, a confirmé sa réservation, donc il est d'accord, je lui demande de m'envoyer un chèque. S'il a duré, enfin, si si la durée est supérieure à un mois. En fait, ça, c'est un conseil de mon père, parce qu'il faut éviter les chèques en bois et éviter d'avoir des soucis. Donc, il m'envoie un chèque qui est égal à 30% de la location. Et à partir de là, moi, j'envoie un contrat en deux exemplaires qu'ils vont lire et me renvoyer signé. Et ensuite, quand ils arrivent en Guadeloupe, mon père leur remet les clés. Et à ce moment-là, eux, ils vont solder et donner le chèque de caution, qui est de 200 euros.
Ok. Et si c'est juste une semaine, alors?
Juste une semaine. Ah, une semaine du départ, si tu
Non,
veux dire, en fait.
s'ils veulent juste louer une semaine. Parce que là, tu m'as dit c'était pour si c'était supérieur à un mois.
Non, en fait, si la réservation est supérieure à un
D'accord.
mois.
Ok. D'accord. Ok.
Et si c'est une semaine, ben, je m'arrange, comme dernièrement, ça s'est fait. Enfin, là, c'était une fille qui était en Guadeloupe, donc elle a payé les 30% à mon père directement. Ou sinon, ben, je fais des fois au cas par cas aussi.
Et au niveau de l'imposition?
Bonne question.
Je sais
Alors,
pas encore.
je commence à me renseigner là, parce que c'est passé maintenant, quoi, je vais remplir ma déclaration. Donc, déjà pour la taxe foncière, j'ai payé 250, donc les 50% l'année dernière. Donc, ça sera à peu près 500, je pense. Je sais pas trop, on verra. Et puis, donc là, je pense me déclarer, je pense me déclarer en fait les frais réels et pas le micro foncier.
D'accord.
Comme mes intérêts sont encore élevés, donc ça sera plus intéressant de déclarer mes intérêts. Mes frais de déclarer mes intérêts, les frais de location, les petits travaux que j'ai réalisés cette l'année dernière. Pour l'instant, c'est plus intéressant.
Okay. Au niveau des charges de copropriété, sachant que c'est une résidence quand même de standing avec une grosse piscine, est-ce que les charges sont pas trop élevées?
Pas du tout. Donc là aussi, c'était un critère aussi de choix. Donc non, c'est 50 euros par mois en moyenne, donc 150 euros par semestre. Et la résidence est quand même bien entretenue, elle est agréable. Donc, voilà, moi je suis
D'accord.
satisfaite.
Avant d'acheter, tu avais étudié les procès-verbaux et règlements de copropriété et compagnie pour voir si la copro était en bonne santé et tout. Ou
Non,
c'est
pas
un
du
petit
tout.
peu au pif, quoi.
Au pif.
Donc tu as pris un petit risque.
J'ai pris un risque parce qu'en fait, le studio que j'ai acheté, c'est le premier que j'ai visité. Parce que j'étais en vacances et bon, je pensais pas acheter tout de suite, mais je me suis dit, bon, je commence à regarder, on verra bien. Je pensais investir en fin 2010.
Ouais.
Et en fait, quand je l'ai visité, il était pas cher, il était bien situé. Enfin, moi, je connaissais le coin parce que avant de partir en métropole, j'habitais aussi pas loin. Et puis, enfin, j'ai visité d'autres appartements. Et puis, en plus, et quand je suis revenue en métropole, je sais pas, je sais pas, j'ai décidé comme ça, du jour au lendemain, de finalement me lancer. Et ça s'est fait comme ça.
D'accord.
Et un mois après, j'ai rappelé l'agence et j'ai eu la chance, il n'était pas encore vendu. Donc, à partir de là, j'ai fait les démarches et puis je l'ai eu. Mais non, j'ai pas étudié il y a plein de choses que j'ai pas étudiées parce que j'étais un peu vite quand même.
Ok. Bon, le dernier appartement que j'ai acheté à Paris, là, enfin, j'en parle dans le guide électronique. Enfin, j'ai étudié les procès-verbaux et le règlement de copropriété vraiment dans les moindres détails, puisque enfin, j'ai acheté un appartement dans un état vraiment délabré. La copropriété enfin, avait l'air de revenir directement des années 60, donc ça faisait quand même assez peur. Enfin, le ravalement de façade était en cours, et vraiment, le bâtiment et l'appartement faisaient très peur. On avait juste envie de prendre nos jambes à notre cou et se sauver, quoi. Finalement, il s'avère, en lisant vraiment les procès-verbaux, les règlements de copropriété, les appels de fonds, et ben j'ai pu voir que l'appartement était vraiment bien et que la copro se bougeait. Donc la chaufferie avait été changée l'hiver passé, donc déjà payée. Le ravalement était en cours, déjà payé par l'ancien propriétaire. Non, je vois que enfin, j'ai vu qu'il se bougeait, quoi. J'ai vu qu'il n'y avait pas de mauvais payeur dans la copro. Ça, c'est super important aussi. Donc, j'ai acheté pour ça. Donc, c'est quand même assez important de regarder ces documents-là.
Oui, ben, je pense que déjà tu m'apprends pas mal de choses déjà là aujourd'hui et je pense qu'aussi ceux qui nous écoutent aussi parce que je suis pas sûre que tout le monde le fasse en fait après, soit comme les autres investisseurs font, mais c'est vrai que moi, et encore là je pensais investir et je pensais pas forcément me pencher dessus.
Parce que non, je connais des gens qui sont vraiment pris à la gorge à cause de ça. Enfin, légalement, on est obligé de payer notre quote-part de charge, quoi. Donc ça peut devenir une charge très 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 lourde. Dans les copropriétés qui sont pauvres, quand les copropriétaires ne payent pas, finalement après ça retombe sur nous. En attendant, on doit payer davantage et la résidence se dégrade. Et il faut surtout pas aller là-dedans, quoi. Je connais quelqu'un qui a acheté en région parisienne, bon, c'était une résidence principale. Ils ont acheté le bien pas cher, c'était un 100, 110 mètres carrés, un appartement. Ils l'ont payé, je crois, 100, 150 000 euros, donc pas cher par rapport à la surface. Mais il s'avère que les charges, je crois qu'ils payent 600 euros de charges par mois. C'est
Ah
juste
oui.
énorme. Et vraiment, il n'y a pas de standing dans l'appartement, quoi, dans la résidence. Loin de là. Donc, quand ils ont acheté l'appartement, il y avait 200 euros de charges par mois. C'était déjà trop, ils n'auraient jamais dû acheter ça. Et là, ça a gonflé, ça a empiré, ils payent 600 euros de charges par mois. C'est-à-dire que c'était. Pardon?
En combien de temps en fait ça a augmenté de 400 euros?
En l'espace d'un an. Ça a monté très vite. Donc là, ils payent 600 euros de charges par mois. Enfin, ils sont vraiment pris à la gorge et l'appartement est invendable en fait. Les charges sont. Enfin, si justement, c'est pour ça qu'il faut regarder justement tout ce qui est PV et compagnie, parce que là, on va se rendre compte qu'il y a 600 euros de charges. Il faut surtout pas aller là-dedans.
Exactement, oui, donc. En fait, c'est quoi en fait par la suite, ça sera quoi le recours? Est-ce qu'ils ont un recours par rapport à ça?
Bah, eux, ils reçoivent des appels de fonds, hein, tout est détaillé, et ils doivent juste payer, et se taire. Donc, s'ils payent pas, ils vont recevoir des mises en demeure et compagnie. Donc, non, c'est triste, hein, faut faire très attention à ça.
Bon ben.
C'est pour ça que c'est bien quand. Là, je suis en train de me pencher pour acheter un immeuble en Provence, un immeuble entier. On n'a pas ces soucis-là. Enfin, j'ai vu là, dans l'appartement que j'ai acheté à Paris, je voulais couper l'eau chaude, l'eau froide, et c'était tout un. Une galère pour demander au copropriétaire si je pouvais couper l'eau, d'aller frapper à chaque porte. On trouvait pas la vanne, fallait aller chez le voisin. Alors que si on a l'immeuble entier, on n'a pas de problème, on fait ce qu'on veut. Et il n'y a pas d'appel de fonds du cousin, de l'oncle, qui est beau-frère en fait du syndic, du plombier, enfin des arnaques comme ça. Donc au moins quand on a l'immeuble entier, on est tranquille. Mais
Exactement.
bon, encore une fois, après, tout faut quand même pas généraliser. Hein. Il y a des bonnes affaires, enfin, comme l'appartement que j'ai fait, étude de cas dans mon guide. Non, non, ça reste une très bonne affaire. Mais il faut faire attention, quoi. Il faut bien étudier toute la documentation. Je sais que c'est très ennuyeux, mais après, finalement, une fois qu'on a l'habitude, une fois qu'on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, ça devient assez facile. On sait quoi regarder, où, à qui demander, et ça se fait assez vite. C'est un petit peu, je dis souvent, c'est un petit peu comme quand on arrive à un travail la première journée. On est sous l'eau, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas à qui demander, on ne sait pas comment utiliser les outils, et on se dit vraiment, waouh, c'est vraiment compliqué, je vais pas m'en sortir. Et après, enfin, on regarde 6 mois après, on est vraiment à l'aise, on sait quoi faire, on sait qui appeler, on sait comment faire, on connaît les procédures. Dans l'immobilier, c'est un peu pareil. Quand on a fait 1, 2, 3, 4, 5 affaires, après on commence vraiment à maîtriser et ça devient beaucoup, beaucoup plus facile.
Oui, mais je pense que, comme tu dis, mais je pense que ça doit freiner aussi peut-être pas mal de personnes, le fait, parce que c'est vrai qu'acheter un appartement, c'est pas aller acheter sa baguette. Et peut-être que, bon, c'est vrai qu'il faut se renseigner pas mal, et je pense que peut-être certaines personnes, en fait, sont un peu refroidies par rapport à ça, moi, je pense. Donc, après, le coup, c'est s'il faut y aller. Pour la première fois, on apprend plein de choses. Le deuxième, comme tu dis, c'est plus facile, et puis après, ça va tout seul, quoi.
Tout à fait.
Sur cette.
Il y a une expression qui dit ceux qui n'ont jamais fait d'erreur n'ont jamais rien tenté, ou en gros ils ont pas été bien loin quoi. L'important quand on fait des erreurs, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les reproduire. C'est pour ça que c'est bien de commencer petit, comme toi tu as fait, un petit studio à 60 000 euros. Tu as commencé petit, on peut aussi commencer par des parkings. Donc c'est exactement la même procédure. Quand on achète un parking ou le château de Versailles, c'est la même procédure, c'est la même paperasse, faut passer devant un notaire. Faut négocier avec le propriétaire, faut trouver un locataire, c'est la même procédure. Et enfin, moi je trouve que c'est parfait pour commencer.
Et oui, effectivement, c'est parfait pour commencer. Et donc voilà, quoi, faut y aller. Moi, c'est ce que je conseillerais, en fait, un peu autour de moi aussi, hein, donc je veux dire, voilà, il faut juste se renseigner, avoir confiance. Et là, je me rappelle quand je voulais acheter, ma mère qui était un petit peu inquiète, qui me disait, mais t'es sûre et tout. Enfin, je lui disais, tout ce que je lui disais, c'est que de toute façon, ne pas s'inquiéter. Hein, quand j'emprunte 60 000 euros, entre guillemets, c'est pas beaucoup non plus. Et je lui dis, bah, si vraiment il y a un problème, je vais revendre, je verrai bien, il y a des solutions. Donc,
Tout à fait. Bah non, mais c'est bien, t'as une bonne mentalité. Ok, bah ça me semble assez intéressant. Et c'est quoi ton objectif à moyen terme finalement? Moyen terme, 10-15 ans?
moyen terme. Alors, mon objectif par rapport, enfin, par rapport aux investissements.
Ouais, par rapport à l'immobilier, où est-ce que tu veux aller?
Alors,
Quels sont tes objectifs?
ben, déjà, ce que je voudrais faire, donc, c'est déjà acheter un deuxième bien. Alors, comme je ne sais pas, ben, au début, je voulais quand même racheter en Guadeloupe, mais c'est vraiment trop frustrant de ne pas pouvoir gérer soi-même. Je voudrais un truc un peu plus impliqué. Donc, je me suis dit en métropole, mais en métropole, donc, je suis limitée financièrement. Donc, peut-être en province. Là, je commence à regarder un petit peu proche dans le département de l'Oise. C'est pas trop loin de Paris. Je me dis que ça peut fonctionner. J'ai regardé le prix, c'est pas trop cher. Donc, déjà un autre studio, un appartement pareil, dans les 60 000, 70 000 euros. Cette fois-ci, que je puisse générer un cash flow chaque mois, donc avec un crédit plus long. Et puis après, je verrai peut-être les parkings ou deux parkings. Parce qu'après, après, je n'aurai plus beaucoup de capacité d'endettement non plus. Donc, je ne sais pas comment ça va se
Mais
passer.
après, si tu empruntes correctement et que à chaque fois tu tout s'autofinance, ton banquier, enfin, tu auras montré que tu sais investir et normalement après, tu auras des armes pour négocier par la suite, quoi. Il regardera de moins en moins ton taux d'endettement et tu auras montré que tu es apte à investir. Donc je pense que tu auras davantage de facilité pour trouver des financements. Après, tu peux toujours t'associer avec, pourquoi pas, ton frère ou ton père pour monter une SCI familiale et investir davantage.
C'est une idée aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me fixe déjà au deuxième, et si le deuxième est réussi, je verrai le troisième. Donc après, j'ai d'autres projets aussi professionnellement parlant. Peut-être que je vais quitter mon poste pour l'instant pour aller travailler ailleurs où je gagnerai peut-être plus aussi pour pouvoir investir plus facilement. Donc voilà.
Ok. Non mais c'est bien, t'as raison de regarder investissement par investissement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent direct, ouais mais après je vais être bloqué dès le deuxième, donc je pourrai plus réinvestir, donc ça sert à rien. Et finalement ils font rien. Alors qu'il faut se concentrer sur chaque investissement, le réussir, et après penser au deuxième. Réussir le deuxième, et après penser au troisième. Réussir le troisième, et après. Et encore, on n'est même pas obligé de faire autant d'investissements. Un seul, ça suffit. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, là, le dernier investissement que j'ai fait, j'ai généré 50 000 euros. Et 50 000 euros, ça peut changer une vie. Peut-être que, enfin, tout le monde ne veut pas faire 10 investissements, 20 investissements. Ça dépend des objectifs de chacun. Mais voilà.
Je vais juste préciser quand même parce que je suis locataire, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. Donc après, je me dis, bon, pourquoi pas être propriétaire de ma résidence principale? En même temps, Paris, ça coûte cher. Donc je sais pas. Pour l'instant, c'est le gros point d'interrogation. Mais voilà, peut-être que mon deuxième sera ma résidence principale, peut-être que ce sera le troisième, je ne sais pas encore.
Ok. Bon, en tout cas, Mélissa, merci d'avoir répondu à mes questions. Je pense que tu as appris pas mal de choses aujourd'hui aux personnes qui vont écouter ça. Et bah, moi, enfin, je vais suivre ce que tu vas faire. Et voilà, j'hésiterai pas à te poser des questions concernant la Guadeloupe et tout ce qui est saisonnier.
Pas de soucis, merci de m'avoir interrogé. Ça m'a fait très plaisir de partager mon expérience.
Merci à toi. À plus tard.